les enfants de Chronos.
Pour en revenir au temps de la splendeur nanteuillaise, il faut imaginer que l'actuel RN2, que l'on continue à dévier des centres des communes pour des raisons évidentes de sécurité, de confort et de limitation des pollutions, était la route royale, puis impériale numéro 2. Cette route de Paris passait jusqu'au XVIIIe siècle devant le château de Nanteuil. Actuellement, dans cette commune, son tracé correspond à la rue Gambetta qui mène de l'hôtel de ville depuis la poste. Son trajet n'est donc pas exactement celui de l'ancienne nationale qui contournait l'église. Fort logiquement, le long de cette route se dressait sur une hauteur permettant de voir jusqu'aux collines de Dammartin un château. Depuis le XIIe, mais surtout le XIIIe siècle, les seigneurs de Nanteuil contrôlaient les passages autant qu'ils montraient leur domination. Les Nanteuil étaient proches des rois, les Capétiens essentiellement. Mais la guerre de Cent Ans, surtout au début du XVe siècle, ravagea le bourg et ruina leur château fort. Lorsqu'Henri II de Lenoncourt hérite par son mariage avec Marguerite de Blois, fille du précédent seigneur de ce fief de Nanteuil, nous sommes en 1525. Une nouvelle ère s'ouvre alors. Les ravages de la guerre de Cent Ans sont tels que Lenoncourt entreprend de bâtir un nouveau château sur les ruines du précédent. Nouveau château, nouvelle ère, nouveau style. Point de château fort, place à la résidence et à la plaisance. Proche de la cour, son père était chambellan de Louis XII, frère du cardinal influent Robert de Lenoncourt, et Henri bénéficie donc avec Nanteuil d'une proximité géographique qui s'ajoute à la proximité politique qu'il entretient avec la cour. Cette situation lui vaut d'accueillir par trois fois François Ier en ce château tout neuf. Ayant adopté les décors les plus à la mode de cette période, qualifiés de Renaissance, il orne certains escaliers de salamandre, emblème personnel du roi. Ce dernier trouve avec Nanteuil une agréable halte lors de ses voyages à destination de son royal château de Villers-Cotterêts. Lors de sa première visite, il érige la seigneurie de Nanteuil en comté. Nous sommes alors en 1543. Le couple Lenoncourt, désormais comtal, embellit sa résidence durant des décennies, l'agrémentant d'une galerie, d'un parc et de jardins à la mode du temps. La physionomie du bourg s'en trouve donc changée. Le gouverneur de Valois, qu'est Lenoncourt, il trouve là un moyen de montrer sa position, sa puissance, mais aussi son ascension. À la mort de François Ier, en 1547, Lenoncourt garde la faveur royale. Henri II, lui aussi fin joueur de paume, rappelons-le, vient à Nanteuil à plusieurs reprises. Sa confiance dans le comte de Nanteuil le pousse à le désigner ambassadeur en Suisse. Celui-ci le reste jusqu'à sa mort en 1552. Cette disparition pousse sa veuve, héritière des seigneurs de Nanteuil, à vendre le comté. La pression n'est peut-être pas que financière d'ailleurs, puisque celui-ci est acheté par un personnage de tout premier plan qui cherche à se rapprocher de la capitale, François de Lorraine, plus connu sous son titre de duc de Guise. L'affaire est conclue en 1556. Compagnon d'enfance du roi Henri, François de Lorraine est un audacieux chef de guerre à la tête d'un des plus puissants lignages du royaume. Nommé gouverneur de Metz, ville prise à Charles Quint par Henri II, il est ensuite de l'expédition d'Italie qui tente de prendre Naples aux Espagnols. C'est à cette époque, au fait de sa gloire militaire, qu'il est nommé lieutenant général du royaume, grade le plus élevé de l'armée royale au XVIe siècle. L'appétit des Guises est insatiable. Le nouveau comte de Nanteuil et son frère, le cardinal Charles de Lorraine, sont aux portes du pouvoir et multiplient les manœuvres pour y accéder en se dressant notamment contre le connétable Anne de Montmorency qui a les faveurs royales depuis des décennies, en étant très proche de François Ier avec qui il fut fait prisonnier à Pavie en 1526. Il est également proche de son fils Henri II. En achetant Nanteuil à la veuve de Henri de Lenoncourt, François de Guise se rapproche à la fois de la couronne et de Chantilly, où réside Montmorency, son principal rival. Le mariage, en 1558, de sa nièce Marie Stuart, reine d'Écosse âgée de 14 ans, avec le dauphin, achève l'approche physique, géographique et politique des Guises. Un coup du sort précipite cependant les Guises sur le devant de la scène, c'est-à-dire à la tête du gouvernement du royaume. Le 30 juin 1559, le roi Henri II organise un tournoi pour célébrer le mariage de sa fille avec le fils de Charles Quint, Philippe II, le roi d'Espagne. Par ces festivités, Henri II veut faire un peu oublier que ce mariage entre dans le dispositif de paix du traité du Cateau-Cambrésis, qui scelle la défaite française face à son ennemi espagnol. Rue Saint-Antoine à Paris, en présence des plus grands représentants de la noblesse française, dont bien entendu François de Guise, le roi s'élance face à Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise. La lance de ce dernier se brise et transperce l'œil du roi. Après 10 jours d'agonie, le souverain s'éteint. Le nouveau roi n'a que 15 ans et se prénomme François II. En attente de son sacre, en août 1559, Catherine de Médicis, sa mère devenue régente, le place sous la protection du duc de Guise en son château de Nanteuil-le-Haudouin. Dauphin depuis ses 3 ans, François a dépassé l'âge de la majorité royale, fixé à 13 ans, mais sa mère, le sachant de santé précaire et fort inexpérimentée, choisit de s'entourer du duc et du cardinal de Guise pour la période de régence qui s'annonce. Ceux-ci prennent très rapidement l'ascendant sur le jeune roi et se partagent le pouvoir. À François, l'armée royale, et au cardinal, les finances, la justice et la diplomatie. Une révolution de palais s'opère aussitôt avec l'éviction d'Anne de Montmorency et de l'ancienne favorite du défunt roi, Diane de Poitiers. C'est donc le duc de Guise qui mène François II au sacre à Reims, au départ de Nanteuil, et c'est le cardinal, son frère, qui procède à l'onction lors de la cérémonie le 21 septembre 1559. La domination des Guises est totale et la faveur royale attise la colère des princes du sang envers les Lorrains. Parmi eux, Antoine de Bourbon, prince protestant, roi de Navarre et père du futur Henri IV. Par ailleurs, les protestants, encore appelés huguenots, deviennent la cible des catholiques intransigeants représentés par les Guises. Ces derniers sont d'ailleurs la cible d'un complot huguenot visant à les liquider, la conjuration d'Amboise. Les conjurés reçoivent le soutien très discret du prince de Condé, prince du sang, frère d'Antoine de Bourbon et chef du parti protestant. Mais le complot est éventé et parvient aux oreilles de Catherine de Médicis. Celle-ci influence le conseil du roi pour que les amnisties soient accordées aux protestants. Cependant, les conjurés passent tout de même à l'action, ce qui entraîne une terrible répression. Les tensions entre catholiques et protestants sont extrêmement fortes et Catherine de Médicis tente de modérer les positions intransigeantes des Guises. Après la mort accidentale d'Henri II, son fils le suit dans la tombe à peine 17 mois plus tard. François II, roi fragile, meurt vraisemblablement d'une méningite ou d'une otite. Sans descendance, c'est son frère Charles qui hérite du trône en décembre 1560. Catherine de Médicis prolonge l'expérience de la régence. Charles IX n'a que 10 ans. La reine-mère, qui s'adjuge le Valois Andouaire, c'est-à-dire qui le garde pour elle après la mort du roi, confie, semble-t-il, également son deuxième fils au duc de Guise en attendant le sacre au printemps suivant. L'histoire se répète dans un premier temps, avant de prendre un tour nouveau après le passage à Reims. Les Guises sont écartés de la cour et la reine Marie Stuart est renvoyée en Écosse. Elle y connaîtra d'ailleurs un funeste destin. Après plusieurs mariages et des accusations de complot, elle meurt, condamnée à être exécutée à la hache. Son bourreau, ivre, s'y prendra à 3 reprises pour décoller la tête de cette femme au destin hors du commun et qui est encore une source d'inspiration pour la littérature, le théâtre ou encore le cinéma. Le règne du jeune et fragile roi de France s'ouvre sous de terribles augures. Son royaume se déchire et, malgré les tentatives de médiation entre les partis catholiques et protestants, lors du colloque de Poissy en 1560, les tensions sont extrêmement vives. Les protestants obtiennent de pouvoir pratiquer leur culte en dehors des faubourgs des villes et dans les campagnes, mais face à cette nouvelle tolérance, un homme va provoquer une réaction sanglante. Cet homme qui va plonger le royaume dans ce qui est aujourd'hui encore appelé les guerres de religion n'est autre que le duc de Guise. Désormais associé avec Anne de Montmorency et d'Albon de Saint-André, il forme le triumvirat qui préside aux destinées catholiques. Le 1er mars 1562, Guise, à la tête de 200 cavaliers, se rend à Paris. Traversant ses terres de Oissy, près de Joinville, aujourd'hui en Haute-Marne, il apprend que des protestants se sont rassemblés dans une grange à l'intérieur de la ville. Selon lui, c'est une entorse à l'édit royal à peine signée, et s'ensuit alors un véritable massacre en réaction à des jets de pierre sur les troupes du duc et sur Guise lui-même. Les protestants, hommes, femmes et enfants, sont massacrés. Ce massacre de Oissy est rapidement relayé par le parti huguenot et donne le signal de la première des 8 guerres de religion qui prendront fin en 1598 avec l'édit de Nantes. Figure de proue du parti catholique, François de Guise est assassiné lors du siège d'Orléans en 1563, probablement sur ordre de l'amiral de Coligny, chef du parti protestant, aux côtés du prince de Condé. À la mort du duc de Guise, c'est un jeune garçon de 13 ans qui hérite du titre. Henri succède à son père, mais son trop jeune âge pousse son oncle, le cardinal de Lorraine, à prendre en main son éducation, pour en faire le chef dont le clan catholique a besoin. C'est véritablement Henri de Guise qui place Nanteuil, son château et son comté au cœur du tumulte des guerres de religion. Dans un premier temps, il convient de lui faire acquérir l'expérience militaire qui lui donnera une assise suffisante pour défendre la cause à laquelle s'est attaché son père. En 1567, il prend les rênes du parti catholique à l'image de ce que son père avait fait. En septembre de cette année-là, le parti protestant, Condé en tête, projette d'enlever le roi qu'il soupçonne d'être menacé par ce qu'il appelle les Italiens, le parti de sa mère. Le jeune souverain est au château de Monceau-en-Brie, près de Meaux. L'enlèvement échoue de peu, et la famille royale se réfugie à Paris. Cet événement, baptisé la surprise de Meaux, relance les violences entre protestants et catholiques, déclenchant une seconde guerre de religion. En octobre, 2000 huguenots sont de passage à Nanteuil et dévastent notamment l'église Saint-Pierre. Dès lors, Henri de Guise combat les troupes protestantes aux côtés du frère du roi, le duc d'Anjou, futur Henri III. Il s'illustre lors des batailles de Saint-Denis, Jardac ou Moncontour.